Chapitre 65. Callan saisit la petite boîte sur l'étagère et retira le couvercle. La poudre était jaune comme il convenait. Se penchant, l'inquisitrice montra sa trouvaille à Richard, toujours allongé sur sa civière. Il prit une pincée de poudre, la sentit, la goûta et hocha la tête. « Il en faut très peu, » dit-il. Il déposa un peu de poudre dans la paume de sa femme et, trop las pour songer à remettre le reste dans la boîte, le laissa tomber sur le sol. Callan versa cet ingrédient dans la bouilloire qui chauffait sur une cuisinière. Des sachets d'herbes infusaient dans d'autres récipients. Sur une table, des champignons séchés avaient été mis à tremper dans de l'huile. Un peu partout, des bancs d'acar émiettaient des plantes ou râpaient des racines. « De la lobélie séchée !» murmura Richard, les yeux fermés. « De la lobélie ?» répéta Owen, perplexe. « C'est une herbe. » Owen approcha des étagères et commença de chercher. Il y avait des centaines de petits bocaux dans la boutique de l'herboriste de Witherton. Cet endroit exigu et mal éclairé ne ressemblait pas aux herboristeries que Callan avait vues ailleurs, mais l'homme détenait un impressionnant stock de produits, et c'était avec ses ingrédients, sans nul doute, qu'il avait fabriqué l'antidote.
« Voilà !»
s'écria Owen. Il montra un sachet à Richard. « Il y a écrit « lobélie » sur l'étiquette. « Pile-en une petite quantité, l'équivalent de la moitié de l'ongle de ton pouce. Tamise les fibres et jette-les, puis verse le reste dans la coupe que tu as remplie de l'huile la plus sombre. » Richard avait de solides connaissances au sujet de la flore, mais largement insuffisantes pour pouvoir préparer l'antidote. Son don semblait le guider, et il lui laissait la bride sur le cou. Le sourcier était-il en transe ou au bord du coma? Callan elle-même aurait été incapable de le dire. Il respirait de plus en plus mal, et personne ne savait comment le soulager. S'il ne se passait rien, il ne survivrait plus très longtemps, c'était évident. Sur la civière, il était installé confortablement, mais ça ne l'aiderait pas à se rétablir. Pour Callan, le voyage jusqu'à Witherton, pourtant très court, avait paru durer une éternité. « De la millefeuille ?» dit Richard.
« Sous quelle forme ?»
demanda Callan.
« Liquide. »
La jeune femme explora les étagères et découvrit un flacon étiqueté « Essence de millefeuille ».
« Combien ?»
demanda-t-elle en s'accroupissant près de Richard. Elle lui glissa le flacon dans une main.
« Quelle quantité ?»«
Ce flacon est plein ?»
Callan retira le bouchon et regarda.
« Oui. »
« La moitié. À mélanger avec une des autres huiles. »«
J'ai trouvé la grande camomille !»
annonça Jensen en sautant de la chaise où elle était perchée.
« Fais-en une teinture !»
dit Richard. Callan reboucha le flacon de millefeuille et se pencha sur son mari.
« Que faut-il faire ensuite ?»«
Une infusion de bouillon blanc. »«
Bouillon blanc, bouillon blanc. »
répéta Callan en retournant au travail.
Une bonne demi-douzaine de personnes obéissaient aux instructions de Richard, l'aidant à préparer le seul produit susceptible de lui sauver la vie. L'opération était compliquée car certaines décoctions devaient être mélangées aux autres à un moment très précis et la moindre erreur risquait de réduire tous ses efforts à néant. Richard fit signe à Owen, qui s'essuya les mains sur le devant de son pantalon et approcha de son seigneur.
« Froid !»
souffla le sorcier.
« L'antidote doit être froid. Il faut trouver un moyen de le rafraîchir très vite. »
Owen réfléchit un moment.
« Il y a un ruisseau pas très loin d'ici. »
« Verse toutes les infusions et les poudres dans la grande bouilloire. Puis, va la plonger dans le cours d'eau. Mais ne l'immerge pas surtout, sinon l'antidote sera fichu. Il ne faut pas ajouter de liquide. »«
C'est compris, »
répondit le bandakar. Sans dissimuler son impatience, il attendit que Callan ait fini de verser les différents ingrédients dans la bouilloire. L'inquisitrice ignorait si ce qu'elle faisait avait un sens. Mais Richard avait le don et il était à l'évidence parvenu tout seul à résoudre le problème que lui posait son pouvoir. Si la magie l'aidait à fabriquer l'antidote, il avait une chance de s'en tirer. Sinon, il était condamné. Callan tendit la bouilloire à Owen, qui sortit aussitôt de la boutique. Kara le suivit, décidé à veiller sur la seule chose au monde qui pouvait sauver la vie de son seigneur. Jensen s'assit près de Richard et lui prit la main.
Callan s'installa de l'autre côté de la civière et saisit l'autre main de son mari. Maintenant, il fallait attendre le retour d'Owen et de Cara. Sur le seuil de la boutique, Betty agitait frénétiquement la queue chaque fois que Jensen ou Callan regardaient dans sa direction. On eût cru qu'elle voulait avoir des nouvelles rassurantes de son ami humain. Après ce qui parut des heures, Owen revint avec la bouilloire. En réalité, Callan le savait, il s'était écoulé beaucoup moins de temps que ça.
« Filtrer le liquide à travers un morceau de tissu, » dit Richard. « À la fin, n'essorez pas le filtre. Laissez simplement couler jusqu'à ce que vous obteniez une demi-tasse de produit, puis ajoutez les huiles et les essences. »
Sous le regard tendu de ses compagnons, Callan se chargea en personne de toute l'opération.
« Remue avec un bâtonnet de cannelle, » dit Richard quand elle eut terminé.
« J'en ai vu quelque part, »
dit Owen. Il chercha sur les étagères, trouva ce qu'il voulait et tendit un bâtonnet à Callan qui commença de remuer la décoction de couleur jaune.
« Les huiles et l'eau ne se mélangent pas, »
dit-elle au bout d'un moment.
« Continue, »
souffla Richard.
« Ça viendra d'un seul coup. »
Malgré ses doutes, Callan persévéra. Les huiles formaient des boules qui refusaient de se dissoudre dans l'eau qu'elles venaient de filtrer. Et les choses semblaient se compliquer à mesure que le liquide refroidissait.
Tout ça ne servait à rien. Depuis le début, c'était n'importe quoi.
Soudain, le liquide devint plus onctueux. Refusant de dire à Richard que ça ne marchait pas, Callan continua à remuer malgré son désespoir. Puis un miracle se produisit. En un clin d'œil, la décoction s'était transformée en un liquide sirupeux parfaitement transparent.
« Richard, j'ai réussi. Que faut-il faire maintenant ?»«
C'est prêt. Fais-moi boire. »
Jensen et Cara aidèrent le sourcier à s'asseoir. Tenant la précieuse tasse à deux mains, Callan la plaça devant les lèvres de son mari et l'inclina légèrement pour l'aider à boire. Richard eut du mal à déglutir et il fallut un long moment pour qu'il ait tout ingéré. Il y avait beaucoup plus d'antidote que dans les flacons précédents, mais ça devait être nécessaire après avoir accumulé autant de retard. Quand Richard eut bu, Callan posa la tasse sur le comptoir de la boutique, puis lécha la goutte de liquide qui venait de tomber sur son index. L'antidote avait un goût de cannelle. Il était très sucré et à la fois très épicé. Tout semblait coller. Quand Richard eut repris son souffle, car boire l'avait épuisé, Cara et Jensen l'aidèrent à se rallonger. Il tremblait et paraissait au bord de l'évanouissement. « Laissez-moi me reposer maintenant, » murmura-t-il. Sur le seuil, Betty bêla plaintivement pour indiquer qu'elle aurait voulu entrer.
« Il va se rétablir, » dit Jensen à son ami. « Reste où tu es et laisse-le dormir. »
La chèvre se coucha devant l'entrée de la boutique afin d'attendre avec les humains. La nuit serait longue, devina Callan, certaine d'être incapable de fermer l'œil avant de savoir si son mari survivrait.
« Il y en a un autre, là !»
dit Zed en tendant un bras.
« Encore du nettoyage pour toi, Chase !»
Comme à l'accoutumée, le garde-frontière portait une cuirasse recouverte d'une cotte de maille. La boucle de sa large ceinture représentait l'emblème des membres de sa périlleuse profession, et il était plus bardé d'armes qu'un régiment en campagne. Sa panoplie allait de simples petites piques d'acier, idéales pour transpercer le crâne d'un adversaire pendant un corps à corps, à une énorme hache de guerre destinée à décapiter en série les importuns qui se dressaient sur le chemin du colosse. Chase maniait toutes les armes du monde avec la fluidité d'un expert. Depuis quelque temps, les compétences d'un garde-frontière paraissaient moins utiles, et Chase avait craint de se retrouver sans emploi. Mais il n'y avait plus aucun risque désormais. Il s'approcha du cadavre gisant sur le chemin de ronde et retira le couteau planté dans sa poitrine.
« C'est là qu'il était !»
s'exclama-t-il. Il leva l'arme à hauteur de ses yeux pour l'examiner.
« J'avais peur de l'avoir perdu. »
Après avoir engainé la lame dans un fourreau vide pendu à sa ceinture, Chase prit le mort par la taille de son pantalon, le souleva sans la moindre difficulté, approcha des créneaux et jeta son fardeau dans le vide.
Zed se pencha pour suivre la chute du corps. Il y avait un appic de plusieurs milliers de pieds avant qu'un objet pût entrer en contact avec la paroi de la montagne, et il fallait ajouter quelques milliers de pieds pour atteindre la forêt au pied du mont. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, les nuages se coloraient de jaune et d'orange. Vue de si haut, Aydindril paraissait toujours formidablement belle. Hélas, c'était désormais une ville fantôme.
« Chase, Zed !»
appela Rachel, campée sur le seuil d'une porte.
« Le ragoût est prêt !»«
Fichtre et foutre !» s'écria le vieux sorcier en levant les bras au ciel. « Il était temps. Un honnête homme peut mourir de faim en attendant que ses ragoûts de malheur soient cuits !»
Plaquant sur sa hanche la main qui tenait une louche, Rachel pointa vers Zed un index accusateur.
« Si tu continues à jurer, tu seras privé de dîner. »
Chase lâcha un gros soupir, puis regarda le vieux sorcier.
« Et tu penses avoir des problèmes. Tu croirais qu'une fillette qui ne m'arrive pas à la taille puisse m'empoisonner la vie à ce point ?»«
Elle est toujours comme ça ?»
demanda Zed en emboîtant le pas à son compagnon. Au passage, Chase ébouriffa les cheveux de la gamine.
« Toujours !»
confirma-t-il.
« Et son ragoût, il est bon ? Pas assez pour que je surveille mon langage ?»«
C'est ma nouvelle maman qui m'a appris à cuisiner !»
rappela Rachel.
« Avant de sortir, Rika a goûté et elle s'est régalée !»
Zed passa une main dans ses cheveux blancs en bataille.
« Eh bien, Emma est la meilleure cuisinière que je connaisse !»
« Dans ce cas, tiens-toi bien, et tu auras même des biscuits salés. »«
Des biscuits salés ?»«
Bien sûr, c'est délicieux avec un ragoût. »«
Sans blague, c'est ce que j'ai toujours pensé. »«
Avant de t'emballer, Zed, » dit Chase, « laisse-moi découvrir si sa cuisine est bonne. »« Je détesterais que tu t'engages à être gentil pour une tambouille immangeable. »«
Friedrich m'a aidé, » précisa Rachel, « et il est très content du résultat. »
« Nous verrons, » marmonna Chase.
Rachel lui brandit soudain sa louche sous le nez.
« Avant, tu dois aller te laver les mains. Je t'ai vu jeter ce cadavre dans le vide. Pas question de t'asseoir à table avec les mains sales. »
Chase coula à Zed un regard accablé.
« Quelque part, un jeune garçon s'amuse innocemment, sans doute avec une grenouille morte ou quelque chose dans ce genre. » « Sans penser au jour sinistre où il passera la bague au doigt de notre demoiselle, lave-toi les mains avant de manger. »
Zed sourit. Quand Chase avait décidé d'adopter Rachel, il avait été ravi. La petite aussi, et apparemment ça continuait. Elle adorait son père adoptif et aurait fait n'importe quoi pour lui. Alors que Zed s'attaquait à sa troisième assiette de ragoût, dans la salle à manger où crépitait un bon feu dans la cheminée, il songea que la forteresse ne lui avait plus semblé si amicale depuis des décennies. C'était à cause de Rachel. Cet endroit avait besoin que des enfants s'amusent et courent dans ses couloirs. Le vieux sorcier regarda Friedrich, l'homme que Richard lui avait envoyé pour le prévenir d'une attaque imminente. Voyant qu'il était arrivé trop tard, Friedrich avait su utiliser son cerveau. Richard lui ayant parlé de son vieil ami Chase, il s'était lancé à sa recherche. Pendant que le garde-frontière était allé libérer Zed et Adi, Friedrich avait regagné la forteresse pour espionner ceux qui l'avaient envahi. Prenant garde à ne pas être repéré par la sœur qui supervisait les opérations, il avait fourni à ses amis de précieuses informations sur le nombre d'envahisseurs et sur leurs habitudes. Puis, il avait participé à la reconquête du fief. Zed appréciait le vieux d'horreur. Non content d'être redoutable, un couteau à la main, il était d'une compagnie des plus agréables. Ayant été marié à une magicienne, Friedrich osait, par exemple, converser avec Zed sans être intimidé par son statut de premier sorcier. De plus, il était une source intarissable d'informations sur Dara, où il avait vécu toute sa vie. Rachel brandit fièrement un petit faucon finement sculpté.
« Regarde, Zed, Friedrich l'a fait pour moi. As-tu jamais rien vu de plus beau ?»«
Sûrement pas. »
« Ce n'est rien !» s'exclama Friedrich. « Si j'avais une feuille d'or, tu verrais le résultat. C'était mon métier, vous savez. »
Il s'adossa à son siège et sourit.
« Jusqu'à ce que le seigneur Hall me nomme garde-frontière. »«
Mes amis !» disait aux deux hommes. « Il ne faut pas se voiler la face. La forteresse est plus vulnérable que jamais face à des attaquants dépourvus de magie. Je peux me charger des sorciers et des magiciennes, mais pour le reste, j'ai des problèmes.
On l'a bien vu, oui, marmonna Chase.
Comme tu dis. Bref, voici ce que j'ai pensé. Puisqu'il n'y a plus de frontières à garder, vous accepterez peut-être de m'aider à défendre la forteresse. En fait, vous auriez la responsabilité de tout ce qui n'est pas magique, puisque je ne suis pas très doué pour ça. Comprenez bien que c'est une mission cruciale.
Accoudé à la table, Chase finit de mâcher un biscuit tout en remuant distraitement son ragoût.
Si Jagang attaque de nouveau avec des trous dans le monde, dit-il, ce sera un désastre. Emma comprendra, je suppose.
Fais l'avenir ici, proposa Zed.
Ici?
Il y a largement assez de place, non?
Et les enfants, Zed? Tu sais que j'en ai beaucoup et ils vont courir partout, s'amuser dans les couloirs, crier à tue-tête. Bref, ils te feront tourner en bourrique.
Chase regarda Rachel du coin de l'œil.
De plus, ils sont tous très laids, comme tu le sais.
La petite fille dissimula son sourire derrière un biscuit. Zed se souvint de l'époque bénie où des cris d'enfants retentissaient tous les jours dans les couloirs de la forteresse.
« Oui, ce sera pénible, » mentit-il. « Mais pour la défense de mon fief, je suis prêt à consentir bien des sacrifices. »« Et ma sœur Lee pourrait amener Matou ?»
proposa Rachel.
« Tu sais le chat que tu lui as confié ?»«
Cette bonne vieille canaille !»
s'exclama le sorcier.
« Voilà un bail que je n'ai pas vu mon chat. Lee le traite bien. Oh oui, nous prenons tous soin de lui. »«
Qu'en penses-tu, Rachel ?» demanda Chase. « Tu voudrais vivre dans cet endroit poussiéreux, avec ce bon vieux Zed ?»
Rachel courut se jeter contre Chase et lui passa les bras autour des jambes.
« Oui, j'adorerais ça, ce serait formidable. »«
Dans ce cas, » soupira Chase, « l'affaire est entendue. » Mais il faudra bien te tenir et ne pas déranger notre ami en faisant trop de bruit.
« C'est promis, »
dit Rachel. Elle jeta un regard interrogateur à Zed.
« Maman devra entrer par le petit tunnel comme nous l'avons fait. »
Le vieux sorcier sourit.
« Non, elle passera par la grande porte comme il se doit pour une gente dame. »
Zed se tourna vers Friedrich.
« Et toi, garde-frontière ? « Veux-tu continuer de servir le seigneur Rall en défendant la forteresse ?»
Pensif, le vieil homme fit mine d'étudier l'oiseau de proie qu'il avait sculpté pour Rachel.
« En attendant les attaques, » continua Zed, « tu pourras t'occuper de tous les objets dorés qui ont terriblement besoin d'une retouche. Que dirais-tu de devenir le doreur officiel de la forteresse ?» Ici, nous ne manquons pas de feuilles d'or, et si les habitants d'Aidindril reviennent un jour, tu seras débordé de clients.
Friedrich baissa les yeux sur la table.
Je ne sais pas trop. Cette aventure ne m'a pas déplu, mais depuis la mort de ma chère Althea, plus rien ne m'intéresse vraiment.
Je sais ce que c'est, souffla Zed.
J'avais une femme dans le temps. À mon avis, exercer un métier te fera du bien.
Friedrich eut l'ombre d'un sourire. «
J'en doute, sorcier. Mais pourquoi ne pas essayer? Au point où j'en suis, ça ne me fera pas de mal. »«
Parfait !» s'exclama Chase. « J'aurai quelqu'un pour m'aider quand je devrais enfermer dans le donjon une bande de sales gosses. »
Rachel eut un petit rire mutin qui en disait long sur la terreur que lui inspirait son père adoptif.
« Eh bien, compagnon Friedrich !» dit Chase en se levant. « Si nous devons devenir des gardes-forteresses, il convient de faire des rondes et de prendre des mesures de sécurité. Vu la taille de ce complexe, Rika ne crachera pas sur un peu d'aide. »«
Pensez au champ de force !»
lança Zed, alors que les deux hommes se dirigeaient vers la porte. Dès qu'ils furent sortis, Rachel donna un nouveau biscuit au vieux sorcier.
« Quand nous vivrons ici, » dit-elle, « nous essaierons de ne pas te déranger, Zed. »
« Tu sais, la forteresse est très grande. Si tes frères, tes sœurs et toi avaient envie de jouer un peu, je doute que ça m'empêche de méditer.
Vraiment ?»
Le vieil homme sortit de sa poche la balle aux lignes bleues et roses et la posa sur la table. Rachel en écarquilla les yeux de surprise.
« Je l'ai trouvé !»
dit Zed en désignant la balle avec son biscuit.
« Un jouet se porte beaucoup mieux lorsque quelqu'un s'amuse avec lui, et je juge ça tout à fait normal. Tu crois que cette balle plairait à tes frères et sœurs ? La faire rebondir dans les couloirs doit être sacrément drôle, non ?»«
Et tu nous laisserais faire ?»«
Bien sûr !»«
Sans blague ?»«
Parole de sorcier !»«
Je pourrais commencer à jouer dans les couloirs sombres qui font tous ces bruits bizarres. Comme ça, tu ne seras pas plus dérangé que maintenant. »
« Ce vieux complexe produit sans cesse des bruits bizarres. Une balle ne devrait pas aggraver les choses. »
Rachel sauta sur les genoux du vieil homme et lui passa les bras autour du cou.
« T'enlacer est plus facile maintenant que tu as réussi à te débarrasser de ce méchant collier. »«
Oh oui, ma chérie, c'est plus facile. Et je suis content d'avoir trouvé ce qu'il me fallait pour me libérer. » »«
J'aimerais que Richard et Callan soient là, pour jouer à la balle, mais pas seulement. » Parfois, il me manque si fort que j'en pleurerai.
« Moi aussi, mon enfant, moi aussi. »
« Allons, ne sois pas si triste, Zed. Tu verras, je ne ferai pas assez de bruit pour te déranger. »
« Ce n'est pas ça qui m'inquiète. »
Le vieil homme brandit un index décharné.
« En revanche, j'ai peur qu'il te reste beaucoup à apprendre au sujet des balles et de la façon de jouer avec. »
« Tu crois ? » ?»«
J'en suis sûr. » Quand on s'amuse avec une balle, rire très fort va de soi. C'est comme les biscuits et le ragoût.
Rachel plissa le front, se demandant si c'était du lard ou du cochon. Zed la posa sur le sol.
Tu veux une preuve? Viens jouer avec moi et je te montrerai.
Vraiment?
Le vieil homme se leva puis ébouriffa les cheveux de la fillette.
Encore une fois, parole de sorcier! « Voyons si tu es capable d'apprendre à cette balle comment s'amuser quand on est un jouet digne de ce nom. »